Vous écoutez
RMC.
Il est déjà 8h01 sur RMC. Un excellent réveil à toutes et à tous.
RMC, Apolline Matin.
Il est l'heure d'accueillir Quentin Vinet pour le journal de 8h. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Pourra-t-on prendre l'avion normalement cet été pendant les grandes vacances? La question se pose plus que jamais. Maintenant que Transavia annonce l'annulation de 2% de ses vols pour mai et juin, info RMC face à la flambée des prix du kérosène. Nous vivons dans un monde de fous. Qui dit ça? Eh bien c'est Donald Trump, après les tirs au gala de la presse ce week-end aux États-Unis. Et alors ce qui est fou, c'est la deuxième place de Paul Sexas hier sur Liège-Bastogne-Liège, un des monuments de la saison en cyclisme. On sera en direct de Belgique dans ce journal avec une question. Est-ce que Paul Sexas va faire le Tour de France?
Les craintes deviennent concrètes ce matin dans le secteur de l'aérien.
Oui, avec cette info donc qu'on vous révèle depuis hier soir sur RMC, Transavia, compagnie aérienne française qui supprime des vols face à la flambée du kérosène, à savoir le carburant des avions, Sarah Bélien.
Oui, Transavia nous a confirmé l'annulation de 2% de ses vols pour mai et juin 2026. Les clients concernés verront leur vol soit reporté sans frais, remboursé ou bénéficieront d'un avoir. En tout, ce sont 19 des 20 principales compagnies aériennes mondiales qui prévoient de réduire leurs vols sur le mois de mai. En cause, le blocage des raffineries qui produisent le kérosène au Moyen-Orient. Les importations baissent, le prix du carburant est multiplié par deux, donc le prix des vols augmente de 10% en moyenne, ce qui forcément dissuade les voyageurs, comme nous l'explique Marc Crochet, président du cabinet de conseil aérogestion.
Aujourd'hui, les gens ne réservent pas pour voyager. Ils sont dans l'attentisme. Forcément, les compagnies aériennes ne peuvent pas attendre la dernière minute. Et donc, d'ores et déjà, ce que vous avez cité dans le cas de Transavia, je dirais pas qu'il y a des annulations massives, mais il y a une régulation des vols. On met un peu moins de vols parce qu'on sait qu'il va y avoir un peu moins de passagers.
Selon lui, cette régulation se fera en fonction des destinations. La hausse des prix devrait se stabiliser dans les prochains mois. La meilleure option pour les voyageurs reste d'anticiper.
Alors aujourd'hui, ce sont les ambulanciers qui seront reçus au ministère de la Santé qui demandent plus que les aides étaient bloquées jusque-là par le gouvernement. La situation ce matin, c'est des prix qui augmentent depuis une semaine. Quand on regarde les relevés du site carbu.com, plus 4 centimes pour le sans-plomb, plus 3 centimes pour le gazole et le pétrole qui est passé cette nuit au-dessus des 107 dollars le baril. Ça y est, on est de retour à des niveaux très élevés en réaction à la situation au Moyen-Orient où les discussions États-Unis-Iran n'ont pas repris durant le week-end. L'Iran est même en plein balai diplomatique pour obtenir des soutiens. Aujourd'hui, il y a le chef de la diplomatie iranienne qui sera reçu par Vladimir Poutine en Russie. Cette déclaration, donc, ce matin de Donald Trump, nous vivons dans un monde de fous. Voilà ce que dit le président américain dans une interview à la télé aux États-Unis, au surlendemain des tirs et du chaos, surtout au traditionnel gala de la presse qui se déroulait à Washington. Le président américain a dû être évacué. Romain Houk pour RMC en direct ce matin. C'est aujourd'hui que le tireur va comparaître devant la justice américaine. On a un peu plus d'infos sur lui et sur ses intentions ce matin.
Oui, le suspect s'appelle Cole Thomas Allen, 31 ans, et peu de temps avant de passer à l'acte, il envoyait un manifeste à sa famille, un texte dans lequel celui qui se surnomme lui-même l'amical assassin fédéral disait vouloir s'en prendre à Donald Trump et à son administration. Il critique sa politique migratoire, mentionne les morts civiles dans les guerres où sont impliqués les États-Unis. Il évoque aussi l'affaire Epstein. Donald Trump parle d'un texte très antichrétien, écrit par quelqu'un de très dérangé avec de gros problèmes dans sa vie. On ne lui connaît pas pour l'instant d'affiliation politique, mais selon la presse américaine, il a fait un don de 25 dollars en 2024 à la campagne présidentielle de la candidate démocrate Kamala Harris. Un suspect jusqu'ici inconnu de la police et professeur à temps partiel en Californie. C'est d'ailleurs depuis Los Angeles qu'il a pris le train et traversé le pays de bout en bout afin d'éviter les contrôles aux aéroports. C'était un client de l'hôtel Hilton où avait lieu le gala, lourdement armé. Selon la police, il était équipé d'un fusil et d'un pistolet, tous deux achetés légalement en 2023 et en 2025, ainsi que de nombreux couteaux.
Alors malgré ça, la visite du roi d'Angleterre aux États-Unis est bien maintenue là, en ce début de semaine, en pleine brouille diplomatique entre les deux pays. Emmanuel Macron, lui, sera en Andorre aujourd'hui, après un déplacement en Ariège, ce matin, sur le thème de la réindustrialisation, en visite notamment dans une usine qui va rouvrir en fin d'année. Je vous signale qu'il y aura bien un procès, 4 ans après l'assassinat du nationaliste corse Ivan Colonna, vous en souvenez, à la prison d'Arles. Le détenu radicalisé qu'il a tué a été renvoyé devant les assises. Et alors ce matin, depuis 6 heures précisément, les surveillants de prison sont appelés à faire grève et même à bloquer leurs établissements par deux de leurs syndicats pour dénoncer le manque de personnel face à la surpopulation carcérale qui est estimée à 230%. Chiffre qui retient notre attention forcément, Julie Brault, à la maison d'arrêt de Chambéry.
63 places pour 150 détenus entassés dans les cellules sur des matelas au sol. Ces conditions de détention dégradées rendent les prisonniers agressifs et dangereux, alerte Emmanuel, surveillante à la maison d'arrêt de Chambéry.
Imaginez bien, à 3 ou à 4 dans 9 mètres carrés, l'agacement, l'énervement, bagarre entre détenus. Donc, qui dit bagarre dit des extractions médicales d'urgence.
Une tension qui se répercute sur les surveillants, forcés de redoubler de vigilance malgré leur sous-effectif.
On n'a plus le temps, on court partout, c'est oppressant. C'est stressant. Ça peut être des collègues qui font aussi des burn-out parce que ils en peuvent plus, ils craquent et c'est une chaîne sans fin.
On est au bord de l'implosion, déplore Wilfried Fonck, secrétaire national UFAP UNSA Justice, qui demande au gouvernement de combler les 5000 postes vacants dans les prisons françaises.
Non pas 5000 postes qu'il faut créer, mais des postes qui existent déjà, mais qui malheureusement ne sont pas couverts parce que nous n'avons pas la ressource humaine nécessaire pour pouvoir le faire. On sait qu'on court à la catastrophe et que là, aujourd'hui, ça suffit.
Sans mesure d'urgence, le blocage national va se prolonger, prévient d'ores et déjà le syndicaliste.
Et puis alors la question est sur toutes les lèvres ce matin. Paul Seixas sera-t-il au départ du Tour de France cet été ?
Oui, bon, vous avez bien compris qu'on était en train d'assister à l'avènement du prodige de 19 ans du cyclisme français qui monte les marches deux par deux en ce moment en étant impressionnant à chaque fois. Hier encore, en terminant deuxième de Liège-Bastogne-Liège, un des cinq monuments, comme on dit, de la saison en cyclisme et surtout en accrochant le Slovène Tadej Pogacar jusqu'à 14 km de l'arrivée. Tout ça, c'est énorme. Maria Azé, vous êtes encore en Belgique ce matin en direct. C'est vous qui avez commenté la course hier sur RMC. Tout le monde attend de savoir s'il va faire le Tour de France maintenant.
Oui, il va falloir attendre encore un petit peu hein, parce que la décision ne devrait pas être annoncée avant la semaine prochaine puisque Paul Seixas part en vacances toute cette semaine pour se reposer après ce gros bloc de course. Pendant ce temps, Décathlon CMA CGM analysera une dernière fois ses données de performance. Même si le coureur de 19 ans a une capacité de récupération impressionnante, il n'a participé au maximum qu'à des courses d'une semaine et le Tour de France en dure 3. La décision sera donc prise en accord avec Paul Seixas en fin de semaine. Lui veut prendre le départ de la grande boucle. Il sait désormais qu'il peut concurrencer les meilleurs et notamment le quadruple vainqueur du Tour, Tadej Pogacar. Difficile donc de ne pas l'imaginer au grand départ de Barcelone le 4 juillet, d'autant plus que le Français partira deux semaines en altitude en Sierra Nevada espagnole au mois de mai, puis devrait s'aligner sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement Dauphiné début juin, une préparation typique d'un coureur qui part pour le Tour de France.
En direct de Belgique pour RMC ce matin, j'ai deux autres infos à vous donner en sport. D'abord le foot, Marseille à 4 points du podium ce matin en Ligue 1. La qualification en Ligue des Champions semble compromise pour l'OM. On est au lendemain du match nul 1 partout, c'était contre Nice qui de son côté s'éloigne de la place de barragiste. Et puis la course aux phases finales, plus indécise que jamais en top 14 de rugby. Après le gros coup, très gros coup de Clermont qui allait gagner à Toulouse 27-24, c'est plus qu'une piqûre de rappel. Voilà ce que dit l'entraîneur toulousain Hugo Mola. On est à 4 journées de la fin, il y a 10 points d'écart seulement entre le deuxième Pau et le neuvième La Rochelle.
Merci beaucoup Quentin Vinet. C'était le journal de 8h sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Et on parle d'économie avec vous Pierre Rondeau. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Nouvelle conséquence du conflit en Iran, le prix du lait pourrait augmenter dans les prochaines semaines.
Oui, hein, c'est sûr que...
Il manquait plus que ça.
Mais c'est sûr que dit comme ça, on a du mal à faire le rapprochement entre conflit au Moyen-Orient et augmentation du prix de la brique de lait.
Parce que le lait, on le prend en Mayenne, on l'envoie à Hormuz.
Bien sûr, on fait beaucoup d'allers-retours en avion et ensuite ça augmente. Non, vous allez voir, c'est précisément ce qui nous attend. Depuis le début du conflit, le cours du pétrole a flambé. Et par un effet de vase communicant, le prix du gazole non routier, celui qu'on le met dans les tracteurs, a lui aussi augmenté. Avant la crise, son prix était compris entre 580 et 620 euros la tonne. Et aujourd'hui, il oscille entre 1200 et 1300 euros. Il a doublé, selon Johan Barbe, président de la Fédération Nationale des Producteurs de Lait, ce qui aura automatiquement une répercussion sur le coût de production et donc sur son prix.
Mais je comprends pas. Il y a quelques mois, on nous annonçait un arrêt de l'inflation alimentaire.
Bah, c'est toute la magie du commerce international. Pendant deux ans, entre 2023... c'est magique. Hein. Entre 2023 et 2025, le cours du lait sur les marchés avait augmenté, dépassant les 500 euros les 1000 litres. Et que font les producteurs lorsque le prix augmente? Ils augmentent leur production pour augmenter leur marge. Rien qu'en France, la hausse avait été de 2,2% en 2025. Et que se passe-t-il? Si la production augmente plus vite que la demande, eh ben les prix baissent. On a glissé sous les 460 euros les 1000 litres, ce qui devait être une bonne nouvelle.
Mais
ce n'est plus le lait qui coûte cher, c'est sa production avec la hausse du cours du pétrole. Et il va falloir répercuter cette hausse sur le prix du lait, puisque les producteurs perdent de l'argent. La Fédération nationale des producteurs de lait demande tout simplement une augmentation rapide et immédiate de 50 euros sur la tonne, donc quasiment le même niveau à son pic en 2025. Donc en plus d'avoir une hausse des prix à la pompe, on va avoir une hausse des prix dans les magasins.
Alors justement, on va revenir au prix à la pompe. Pour l'instant, il n'y a pas encore de pompe de lait. On en est où ce matin, Pierre Rondeau? On fait les comptes tous les matins.
Le lait augmente et aussi l'essence, puisqu'on était pour un samplon 95 vendredi à 1,97€. On est monté à 1,99€. Le gazole, c'est pareil, hein, 2,17€. Ça augmente aussi à 2,18€. Le baril de pétrole, 105$ vendredi dernier, 107$ aujourd'hui ce matin. Il n'y a que le gaz qui baisse très légèrement. On était à 45€ vendredi, on est à 44,16€ aujourd'hui.
Merci beaucoup, Pierre Rondeau.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Allez, vous ne bougez pas, vous restez bien sur RMC. Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, c'est Christian Proutot, fondateur du GIGN, qui sera au micro de Marie Chantret sur RMC et BFM TV. Et juste après, Nicolas Canteloup. Face à Canteloup, c'est à 8h50. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15 et c'est tous les jours lui.
Arnaud tous les Demanche jours, avec nous. Tous les jours. Bonjour
ça
pour
va,
cette nouvelle semaine. Ça va et vous? Bonjour la squadra RMC. Mm-hmm. Guten Tag la RMC Mannschaft. Ça va les amis? Ouais. Alors, on a failli réattaquer la semaine avec un gros bouleversement. Il y a quelqu'un qui a encore voulu tirer sur Donald Trump. Au final, il n'est pas mort. Encore raté, Mélania. C'est bête, hein. Alors, sur les images, on voit un truc marrant. J.D. Vance s'est évacué avant Trump. Vous avez vu ce truc-là? Et après seulement, ils viennent chercher le vieux. Je pense que ses gardes du corps ont dû se dire, attends, le plein d'essence cette semaine, ça va encore coûter une blinde. S'il y a une petite chance de faire baisser le prix du litre, c'est maintenant. Va pas trop vite, quoi. Et l'autre image marrante de la soirée, ça m'a fait hurler de rire. Vous l'avez vu? Il y a tous les journalistes qui étaient cachés sous les tables et ils réalisent que le danger est passé. Ils se relèvent et tous, ils se mettent à embarquer les bouteilles de vin et de champagne. Ils se cassent avec. Histoire de ne pas avoir complètement perdu la soirée. Tu vois. Elisabeth Lévy était dégoûtée de ne pas avoir été invitée. Enfin voilà, Trump est toujours vivant. Et tiens, tant qu'on parle de perte irremplaçable, Emmanuel Macron va arrêter la politique. Ouais.
Il l'a dit.
Dans un an. Oh. Il l'a dit à des lycéens pendant une visite officielle à Chypre. Pas de politique après son départ de l'Élysée. Et priorité au direct sur BFM TV, car notre cher leader va nous abandonner à son triste sort. Emmanuel, grand soleil du 21e siècle, oh génie des finances, ne laisse pas ton peuple orphelin, père de la nation. Voilà, ça c'est ce qu'Emmanuel Macron imaginait en faisant cette déclaration. Et en réalité, ça a été Brigitte. Pourquoi personne parle de mon annonce à la télé? Sur BFM et LCI, ils parlent de Trump et de la guerre et pas de moi. Ben, t'as qu'à mettre CNews. Ok. Et vous êtes bien sur CNews et on va parler des ZFE. Parce que dans les centres-villes, il y a des ZFE partout. Voilà, les ZFE, c'est la gauche. La gauche aime les ZFE. C'est un scandale, les ZFE. Brigitte, ils parlent que des ZFE. Ça doit être le thème de l'émission. On réessaye dans 2 heures. Et 2 heures plus tard. Que pensez-vous des ZFE, Christophe? Oh, les ZFE, c'est pas bien, les ZFE. Ben non, c'est pas bien, les ZFE. Brigitte, ils s'en foutent de mon annonce, ils sont sur les ZFE encore. Je comprends mieux que leurs audiences soient divisées par deux, c'est chiant leur truc.
Alors, on en parlait avec lui à 7h40, le député du rapport, le rapporteur de la commission parlementaire sur l'audiovisuel public, Charles Alloncle, était ici même. Il préconise de supprimer un quart de son budget, notamment, un quart du budget de France Télé, notamment 120 millions d'euros pour les jeux.
Ouais, 120 millions au moins. Déjà qu'on gagnait des trucs nazes dans leurs jeux tout cheap, là. Qu'est-ce que ça va être? Les candidats, ils seront assis sur 2 chaises en formica récupérées chez Emmaüs pour gagner des cadeaux nuls.
Jean Marc, vous avez gagné l'encyclopédie Larousse des revêtements muraux en 26 volumes. Mais on a le budget que pour les volumes A et B. Donc l'acrylique, le bois et le BA13 n'auront bientôt plus de secret pour vous.
Moi, je veux bien.
Alors, voilà, c'est bien de démarrer par quelque chose. Si on veut se lancer dans une activité manuelle, il faut le faire. Alors, il suggère aussi de fermer France 4. Oh non. Comment on va faire pour regarder, vous savez, le truc qu'il y a sur France 4. France 4, c'est l'appendicite des médias, en fait. C'est vrai que si on te l'enlève, tu peux vivre sans. Et il suggère aussi de réduire d'un tiers le budget des sports du groupe. Donc, les JO, les Six Nations, le Tour de France, Roland-Garros, trop cher. Faudra diffuser des événements moins clinquants.
Et bienvenue sur France Télévisions pour ce championnat de France de marche athlétique.
Ah,
sponsorisé par Orpea. Hein, 53 km avec des boomers qui font de la marche à pied entre Châteauroux et Issoudun. Avec leur bâton de ski, là. Tu sais, ces trucs bizarres. Et les concurrents marchent. On le voit, hein, ils marchent. Ils sont lancés. Ils marchent. Ça y est, ils parlent de leurs problèmes médicaux. On le voit, hein, le concurrent de la boule parle de sa trompe, de la thrombose de sa femme avec le concurrent niçois. Il marche, hein. Au milieu d'une ZFE, peut-être. Il marche. On s'ennuie un peu, pour tout vous dire. Allez, partons aux épreuves de crachat de noyaux d'abricot par équipe à Guéret, dans la Creuse. Ou alors non, on va faire un crochet par Montargis pour le championnat de France du cri de cochon. Oh, c'est superbe. Toutes les émotions du sport. Bon, on fait ce qu'on peut pour vous le vendre, hein. Désolé, c'est pas très intéressant, mais c'était pas cher. Et alors, on le sait moins. Mais dans son rapport, Charles Alloncle propose aussi d'exorciser les locaux de France Télé et de Radio France. Va des rétros ! Va des rétros, esprit islamo-gauchiste de Nathalie Saint-Cric !
Tu ne me feras pas partir ! Ton Ciotti suce des bites sur CNews.
Au nom de Bolloré, notre seigneur, quittez ce bureau, démon de bolchevique !
Il va asperger dans les couloirs Laurent Delahousse avec de l'obéinix.
Oh non ! Ma mèche est foutue, mais chiant ce type.
Donc on verra, il y a plein de propositions. Et à demain.
Merci beaucoup Arnaud Demanche, qu'on retrouve évidemment quand on veut en podcast sur l'application RMC. On va accueillir Laurence qui nous appelle d'Indre-et-Loire ce matin. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Alors accrochez-vous Laurence, j'ai un Pierre Rondeau tout frais, tout beau pour vous en studio. Laurence, vous êtes productrice de lait.
Hein? Exactement.
Vous avez écouté la chronique Éco avec Pierre Rondeau il y a un petit quart d'heure.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Alors les prix chez vous ?
Nous,
c'est pas vous qui les choisissez, on sait, hein, mais ça va donner quoi ?
Nous, on a une laiterie locale qui s'est engagée à maintenir les prix parce qu'elle a mis de l'argent de côté pour en cas de coup dur. Mais par contre, d'autres prix nationaux baissent le prix du lait et la guerre en Iran n'y changera rien pour l'instant.
Et du côté des frais fixes, du côté des coûts que vous avez, que vous engagez pour la production du lait ?
Par exemple, je vais vous dire, avant quand je commandais du GNR, donc pour les tracteurs.
Le gazole non routier, le gazole des tracteurs.
On était à 700 euros à peu près, des 1000 litres. Et là, on est plutôt, j'ai eu de la chance, on est à 1200, mais on a déjà fait du 1300 euros les 1000 litres.
Et les cuves sont vides chez vous ? Elles se vident vite ou
Ah non, on n'a pas le choix, faut faire, on a des signes à faire. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de ramasser de l'herbe, on fait ce qu'on appelle un chantier d'ensilage. Pour faire des fourrages, des réserves.
Oui, bien sûr. Donc, c'est la saison où il faut en profiter. Ouais. Ah bah, c'est le problème, c'est qu'en plus, vous êtes tenu à la saison. On ne peut pas vous dire, attendez 6 mois, le gazole sera moins cher, parce que c'est maintenant ou jamais. Quoi.
Nous, je sais qu'il y a des agriculteurs, des céréaliers qui ont dit, cette année, les coûts sont tellement exorbitants qu'on ne sème rien. Mais nous, on a des vaches, il va bien falloir les nourrir.
Ah oui, il faut les nourrir, il faut tirer le lait, il faut continuer l'activité. Laurence, merci en tout cas d'avoir apporté votre témoignage à la fois sur le prix de revente du lait avec une laiterie qui clairement vous soutient et à la fois sur la question des frais engagés. On en parle avec Pierre Rondeau juste après le journal de 8h. Réaction en direct, Laurence au 32-16. Merci beaucoup. Laurence, dans un instant, le face-à-face sur RMC et BFM TV avec Marie Chantret et son invité Christian Proutot. C'est le fondateur du GIGN et c'est aussi le fondateur et premier commandant du groupe de sécurité de la présidence de la République. C'est sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Merci d'écouter RMC, 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Thomas Péquer.
À la une ce matin, c'est une information RMC. La compagnie française Transavia annonce supprimer 2% de ses vols sur les mois de mai et juin. Décision liée à la flambée des prix du kérosène. À l'étranger, le ministre des Affaires étrangères iranien vient d'arriver à Saint-Pétersbourg. Il va s'entretenir avec Vladimir Poutine. Pas de confirmation, en revanche, de nouvelles discussions directes entre l'Iran et les États-Unis. Aux États-Unis, toujours, le tireur qui a tenté de s'en prendre à Donald Trump samedi soir sera présenté à la justice aujourd'hui, juste avant de passer à l'acte contact. Il avait envoyé un manifeste à ses proches. Il y écrit sa cible, noir sur blanc, l'administration Trump. Le président américain le qualifie de personne visiblement très dérangée. Verdict attendu aujourd'hui pour le rapport parlementaire sur l'audiovisuel public. 30 députés se réunissent en début d'après-midi. Au programme, un vote pour décider si le rapport sera rendu public ou non après des mois de travaux sous tension. En football, gros coup d'arrêt pour l'Olympique de Marseille, tenu en échec contre Nice au Vélodrome hier soir. Un partout, les Marseillais se retrouvent à 4 points de la place qualificative en Ligue des Champions. La météo aujourd'hui, du soleil et de la douceur avec ce matin des nuages présents sur le littoral méditerranéen entre le sud de la Garonne. Partout et ailleurs, c'est lumineux. Coup de tonnerre, attention attendu sur les reliefs du sud, les Pyrénées, les Alpes du Sud et le Massif central. Côté température, eh bien, elles se maintiennent au-dessus des normales de saison, comprises entre 18 et 22 degrés près de la Manche, entre 22 et 27 degrés cet après-midi sur le reste du pays. Il fera 17 à Cherbourg, 20 à Caen et Lille, 23 à Reims et Metz et 26 à Bordeaux.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
C'était le rappel des titres de Thomas Becker. Dans un instant, sur RMC et BFM TV, Marie Chantrey reçoit Christian Proutot pour le face-à-face, le fondateur du GIGN, fondateur et premier commandement du groupe de sécurité de la présidence de la République.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Marie Chantrey.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Christian Proutot.
Bonjour Marie.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je le rappelle, vous avez été fondateur du GIGN, mais également fondateur et premier commandant du groupe de sécurité de la présidence de la République, le GSPR. On va évidemment aborder avec vous les suites de l'attaque évitée de justesse à Washington il y a 24 heures maintenant. La troisième fois depuis 2024 que Donald Trump échappe à une tentative d'assassinat. On va revenir en détail sur le déroulé de cette soirée. Mais d'abord, vous, l'expert en sécurité, qui avez analysé toutes ces images avec nous en plateau, qui avez lu également, pour vous, y a-t-il eu des failles de sécurité? Peut-on ce matin l'affirmer quand, dans le même temps, on entend un président américain qui semble totalement dédouaner les services secrets?
Oui, effectivement, non seulement il y a eu des failles, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure, et c'est surprenant que le président lui-même, qui a été relativement critique quand sa sécurité était assurée par ses prédécesseurs, puisse considérer que simplement parce qu'il a changé la tête des secrets de service, ça irait mieux. Mmh. Le problème, il est endémique dans le système américain, c'est-à-dire que vous avez une succession de responsabilités qui fait que ce partage de responsabilité n'a pas un continuum qui permet effectivement d'être sûr que tout le monde est à la hauteur de l'événement particulier dans la coordination entre les services.
Et on va y revenir longuement. Je dis semble dédouané parce que Donald Trump a accordé plusieurs interviews depuis hier et il le dit. Franchement, ça a été très rapide, je le cite. Ils l'ont arrêté net, il n'y a aucun doute. Il ne s'est jamais approché des portes, n'a jamais été sur le point de les franchir. Parlant du tireur présumé qui en effet n'a pas atteint la salle où se déroulait cette réception. Mais néanmoins, il y a, semble-t-il, des trous dans la raquette, encore une fois. Selon nos confrères du Washington Post, le dîner n'avait pas été classé au niveau maximal de protection réservé à de grands événements. Quand on voit qui était dans la salle, ça interroge.
Oui, tout à fait, d'autant que l'on sait que compte tenu à la fois du contexte international, mais également de la détestation que déclenche Trump autour de lui, de ce président spécifiquement, il y a, en plus avec ce que l'on connaît de l'histoire américaine, malheureusement, une répétition d'un certain nombre d'agressions de chefs d'État où la politique se gère à coups de fusil. Et on ne comprend pas que, ayant réuni dans la même salle autant de gens importants, même si effectivement, au départ, le dîner n'était pas un dîner organisé par la Maison-Blanche.
Par l'association des journalistes couvrant en effet la Maison-Blanche, mais en coordination avec la Maison-Blanche. Il y a une liste qui leur a été transmise, et vous parliez des personnalités présentes. Là encore une fois, nos confrères de CBS le disent. À une même table, le président, son vice-président, qui, on le rappelle, ne sont pas autorisés à voyager dans le même avion. Ça, c'est le cas en France également. Mais des dizaines de ministres secrétaires d'État, est-ce que pour vous, la sécurité n'était pas au niveau ?
La sécurité n'était absolument pas au niveau, même si sur la fin, ce que l'on voit, c'est-à-dire arriver l'unité spéciale du FBI qui assure la couverture, si effectivement l'attaque avait été plus importante, il y aurait eu une réactivité. Mais même le fait qu'un homme ait pu s'approcher aussi près, même si, comme le dit Trump, et ça semble le rassurer, au moins rassurer son le fait que l'USS, Secret Service n'a pas failli, il n'est pas normal que dans ce type d'événement, on puisse se trouver face à une situation où un homme se retrouve en gros à quoi, 30 mètres du président des États-Unis, même s'il n'a pas pu franchir l'escalier.
Parce que de nombreuses questions se posent aussi sur le profil du tireur et sur comment il a pu être dans ces lieux. On le rappelle, le Hilton, un hôtel qui accueille donc régulièrement des clients, des voyageurs. Il semblait être dans cet hôtel depuis plusieurs jours. Ce qui fait quoi ? Que penser que les services secrets, les services de sécurité n'ont pas scanné les clients, n'ont pas repéré ce type de profil. On le rappelle, il avait sur lui au moins deux armes, des couteaux. Là encore une fois, pardonnez-moi, mais on est un peu interloqué par le fait qu'il ait pu posséder un tel attirail.
Oui, c'est non seulement surprenant, mais c'est invraisemblable de se dire que il n'y a pas eu, au niveau de la corps, les États-Unis qui sont un pays où tout le monde est maintenant fiché, hein. Il y a vraiment, il est très difficile de passer à travers les systèmes qui sont mis en place.
Même si on le rappelle, la détention, le port d'armes est autorisé, l'achat également. Oui. Mais vous êtes fiché. Ça inclut finalement, voilà, ça a pour conséquence de vous ficher.
D'autant qu'il les a achetés officiellement, parce qu'il aurait pu les acheter sur d'occasion et autres, ça arrive. Et à ce moment-là, il apparaît pas forcément sur les fichiers. Mais le fait de ficher croiser les fichiers aurait dû permettre, normalement, au moins dans la partie qui est la partie renseignement, puisque la sécurité, c'est quatre niveaux. Le niveau du renseignement, le troisième niveau qui est un niveau un peu plus large, le niveau qui a failli qui est le deuxième niveau, et le dernier niveau, celui qu'on appelle le premier mais qui est en fait le dernier, qui est le cercle qui est autour de l'autorité lui-même et qui a permis l'exfiltration du président et qui est le Secret Service. Ouais. Mais normalement, tous ces niveaux doivent travailler en coordination.
Et c'est ce qui semble-t-il a manqué.
Voilà,
de plusieurs témoins reviennent des témoignages, la plupart du temps similaires, sur ces portiques de sécurité très classiques que l'on peut trouver dans les aéroports, par exemple. Mais finalement, de simples contrôles de sécurité seulement, quand on sait qu'était présent, encore une fois, le président des États-Unis, sans doute la personne la plus protégée, voire la plus menacée au monde, l'expert en sécurité que vous êtes dit... C'est insuffisant, là encore ?
Je dis que non seulement c'est insuffisant, mais c'est par rapport aux gens qui étaient, par exemple, au dernier contrôle dont vous parlez. On le voit très bien sur les images qui tournent en boucle, où on voit l'homme courir. Comment se fait-il qu'un homme ait pu arriver à un niveau où l'on sait qu'il y a le chef à un demi-étage près, en sous-sol, il ait pu descendre avec un fusil, sans avoir attiré l'attention de quelqu'un, et ensuite se mettre à courir et n'être intercepté, on le voit très bien, il y en a huit en plus.
Absolument.
S'il n'y en avait qu'un, bon, on pourrait comprendre. Mais il y avait au moins déjà le nombre, mais le manque de réactivité de cette équipe est vraiment concernant.
Avec l'ironie que l'on connaît du président américain qui dit hier, il aurait pu être recruté par la Ligue de football américain tant il courait vite. Ça, c'est les observations de Donald Trump. Neutralisé sans être abattu. Là aussi, l'expert en sécurité que vous êtes, il va comparaître aujourd'hui devant un tribunal américain. C'est la doctrine, on tente de le neutraliser sans l'abattre, sans le tuer. C'est une force, là aussi ?
Alors, c'est une force chez nous, pas vraiment aux États-Unis. C'est ce qui m'a fait dire que, pour une fois, les Américains, en dehors de l'échec de l'interception de cet agresseur, un peu plus tôt, c'est-à-dire au moment du dernier contrôle, hein, qui était le dernier contrôle en fait, n'a pas été transformé en écumoire, donc il n'a pas été troué de tous les côtés, mais il n'y a eu que 5 coups de feu qui ont été tirés, et ça aurait pu être également, dans la maîtrise de l'événement, quelque chose de gravissime à l'intérieur, parce qu'il y avait beaucoup de responsables de sécurité, chaque haute personnalité ayant sa propre équipe de sécurité. Il y a eu une maîtrise des armes assez exceptionnelle aux États-Unis pour pouvoir être souligné. Ça, c'est important.
Des coups de feu tirés, et donc vraisemblablement tirés par les Secret Service, ou en tout cas les services de sécurité, pas forcément donc de cet assaillant présumé, Cole Thomas Allen, 31 ans. Est-ce que pour vous, là encore, d'un regard extérieur, tout a été assuré? Parce que certains experts ont dit qu'il aurait pu porter sur lui, je ne sais pas, un gilet d'explosifs. Est-ce que là aussi, dans la manière dont ont réagi les forces de l'ordre, à ce moment précis, tout a été respecté, ou vous sentez de la précipitation de leur part?
Ah non, mais là, ils ont été complètement surpris. C'est ça qui est la problématique. Ouais. C'est que on voit bien sur les images de ce dernier contrôle que ils ont contrôlé tous les gens qui étaient les gens les moins dangereux, c'est-à-dire les invités, et que pour eux, la fête était finie. Et il n'y avait personne à ce moment-là. Au moment où l'agresseur court, il tourne le dos à l'agresseur. Mmh. Et c'est parce que le premier qui dégaine d'ailleurs, qui est sur la table, ou à mon avis devait regarder à l'intérieur des sacs si ça sonne avant, ou parce qu'apparemment ils présentaient à peine même leur invitation, il se retourne et il dégaine, mais c'est là où le président a eu ce trait d'humour en disant qu'il aurait pu être dans le football américain un quarter, c'est-à-dire celui qui court le plus vite, même si je suis pas spécialiste du football américain, parce que il a couru tellement vite qu'il est tombé. C'est ce qui a permis son interpellation et qui a fait qu'il n'y a eu que 5 coups de feu tirés, ce qui est quand même, je le rappelle, par rapport à ce que l'on a malheureusement tendance à voir aux États-Unis au niveau de la maîtrise du feu, quelque chose d'assez important pour le souligner.
En tout cas notable, c'est notable, sûr.
Absolument.
Le profil du loup solitaire semble se préciser. Cole Thomas Allen, est-ce que ça vous semble plausible? Est-ce qu'une telle, ça semble préparé? Il s'est installé dans cet hôtel quelques jours avant de passer à l'acte. Il a donc réfléchi son acte, et on apprend également qu'un manifeste qu'il a écrit de ses mains a été envoyé notamment à certains de ses proches. Est-ce qu'encore une fois, une telle attaque préparée peut être préparée par un seul homme?
Oui, je le pense, parce qu'on connaît trop ces profils, qui sont des profils malheureusement que l'on qualifie de suicidaires, et qui sont valables pas simplement à travers des gens qui ont un engagement politique. Mmh. Je veux dire, un engagement politique avec des équipes armées et tout. Non, vous avez des gens qui, tout d'un coup, font une fixation sur un personnage.
Ce qui semble être le cas, considérant qu'aujourd'hui, et je le cite, Trump salit mes mains avec ses crimes, un manifeste aussi anti-chrétien, tout se mélange également. Ça semble être le profil qui se dégage de cet homme,
oui,
qui va comparaître encore aujourd'hui.
Absolument, avec en plus cette fascination pour les jeux vidéo, où il se construit un film, et d'ailleurs, on le voit dans le manifeste, il explique ça va pas, ils savent pas travailler, ils auraient dû faire ça, ils ont pas fait ça, vous rendez compte, j'ai pu faire ça, mais je ne tuerai que telle ou telle personne. Enfin, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui a, à travers le côté obsessionnel, déclenché chez lui ce passage à l'acte que l'on redoute tous dans nos métiers, parce que autant le renseignement, comme je disais, le quatrième cercle de sécurité qui est le renseignement, peut vous permettre d'anticiper, mais ça vous permet pas d'anticiper des personnalités comme celle-là.
Des individus qui passent
absolument
au travers des mailles du filet. Les questions qui se posent désormais, c'est sur les conséquences de la sécurité de Donald Trump. Personne ne m'avait dit, là encore, plein d'ironie, que c'était un métier aussi dangereux, les mots du président américain hier. Selon certains médias, Fox News en particulier, sa sécurité pourrait être massivement renforcée dans les prochains jours, voire jusqu'à porter un gilet pare-balles en public. Est-ce que là encore, ça vous semble une option envisageable ou à envisager pour le président américain, vous l'expert en sécurité que vous êtes?
Alors ça me paraît tellement ironique, je n'arrive pas à comprendre même qu'on ait pu présenter ça comme étant l'arme ultime, parce que d'abord, ne serait-ce que pour ce qu'on appelle les balles à grande vélocité, la plupart des gilets pare-balles, ce qu'on appelle second chance, que l'on ne voit pas, qui vous transforme pas comme vous l'avez vu avec les équipes spéciales, en particulier celles de Secret Service que l'on a vu arriver après coup, et et ceux qui ont exfiltré, le président, qui eux ont ça, on appelle ça des second chance sous la chemise, les balles à grande vélocité ne peuvent être arrêtées que par les gilets lourds que l'on a vu avec les dernières
Ce qui n'est pas envisageable pour un président qui se déplace. Et par ailleurs, certains pointaient du doigt que en Pennsylvanie en 2024, il était alors en campagne. Il a été touché à l'oreille de justesse, mais la tête était visée. Et donc, un gilet pare-balles n'empêchait pas finalement peut-être de le tuer ou de l'assassiner. Ça aussi, c'est une réalité.
Oui, non seulement c'est une réalité, mais déjà envisager que vous allez être obligé d'arriver à l'ultime protection, c'est-à-dire eh bien tout a failli avant, ça veut dire que l'ensemble du dispositif, vous n'y croyez pas. Donc, à mon avis, la réponse est une mauvaise réponse, un vrai problème.
Christian Proutot, d'un point de vue plus politique, vous qui avez été aux manettes, je le disais, et du GIGN et du groupement de sécurité de la présidence de la République en France, des failles semblent se dégager. Est-ce que pour vous, politiquement, eh bien, des conclusions doivent être tirées? Vous en parliez, Sean Curran, qui est le nouveau patron des Secret Service, nommé par Donald Trump, qui l'a d'ailleurs sauvé de cet attentat manqué en juin 2024, doit-il être limogé? Est-ce que pour vous, ça fait partie de la symbolique et des conclusions à tirer?
Alors, c'est tout le problème de la responsabilité que j'ai évoqué au début de notre entretien qui fait que, aux États-Unis, cet empilage de responsabilité permet de dégager la responsabilité de Sean Curran.
Vous dites que ça les dissout, finalement.
Voilà. Oui, oui.
C'est ça aussi la conséquence politique.
Voilà. Et si les États-Unis veulent prendre en compte la problématique, elle est simple. C'est qu'il faut obliger les services à travailler entre eux. C'est un problème que nous, on a connu en France, qui est maintenant résolu depuis la création du GSPR, où c'est en priorité le patron, celui qui est en charge de la sécurité du plus haut personnage, qui peut être en mesure de décider ce qui est mis en place et comment les services doivent fonctionner avec ensemble.
Et on verra du côté américain si des conséquences sont tirées. À vous, l'ancien patron du GSPR, encore une fois, aucune personnalité avant-hier ni invitée n'a été blessée. Seul un officier des Secret Service a été touché au gilet par balle, transporté à l'hôpital. Il est seulement blessé. Une image a retenu mon attention, peut-être aux téléspectateurs, de cet agent qui s'est interposé. L'assaillant n'était pas dans la salle, mais il prenait tous les risques. Oui. C'est ça aussi l'engagement. Profession garde du corps, sentinelle, une vie pour une autre. Quand vous signez pour être agent des Secret Service, vous risquez votre vie.
Voilà, c'est la réaction que l'on a normalement, ce qu'on appelle le premier cercle, qui est soit le triangle, ils sont trois, soit cinq, le diamant. Et vous disiez que j'avais été le patron du GSPR, mais j'étais pas
de
le patron.
De la sécurité du président français, hein,
voilà,
précise.
Je n'étais pas le patron sur le terrain, mais les hommes que nous avons formés avec les officiers, dont Alain Le Carreau qui commandait cette unité, tout de suite a été un engagement qui pouvait conduire à perdre leur vie pour défendre le chef de l'État. Et ça, c'est l'engagement qu'ils avaient d'entrée.
Quand vous signez pour ce type de métier, de profession, vous savez que c'est le risque possible.
Absolument. Sinon, il faut faire autre chose et puis pas vouloir venir simplement pour avoir des Ray-Ban et une oreillette.
Christian Proutot, une toute dernière question sur l'analyse que vous faites de la situation. La visite de Charles III à Washington a été maintenue. On sait que la couronne britannique a été en lien direct avec la Maison-Blanche toute la journée d'hier. Une remise en cause d'une telle venue aurait dû être envisagée, selon vous. Est-ce que c'est légitime de la maintenir?
Moi, je pense que c'est plutôt les Britanniques qui auraient pu se poser la question. Mais c'est une visite officielle, et vous le soulignez tout à l'heure, malheureusement. Ce dîner n'était pas, au départ, organisé par la Maison-Blanche. On n'a pas mis en place, ou peut-être on a laissé mettre en place un système qui n'a pas été supervisé par ce qu'aurait dû faire l'USSS,
le Secret Service.
Ils auraient dû vérifier qu'effectivement il y avait un continuum au niveau de l'efficacité des dispositifs de contrôle, et ça, à mon avis, ça n'a pas été fait, simplement parce que c'était pas une visite officielle. J'espère que dans le cadre de la visite officielle, ils vont en prendre compte et que ça sera pas le cas. Je suis sûr.
Et on sait que de nos correspondants, la capitale américaine est très, très protégée ces dernières 24 heures. D'un point de vue d'expert, juste un mot sur ces vidéos. C'est vrai que ça marque les esprits. À quel point on a pu suivre cette attaque limite en temps réel grâce au téléphone portable que chacun a dans sa poche. Est-ce que pour l'expert en sécurité que vous êtes, c'est utile? Est-ce que pour l'enquête qui est en train de démarrer, c'est une arme essentielle?
Écoutez, c'est une arme à double tranchant, bien évidemment, mais pour faire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le rétex, c'est très utile, parce que au moins, ça permet de mettre les points sur les i et dire, voilà, ça n'a pas marché pour ça, ça et ça. J'espère qu'ils ont pas besoin, ils n'avaient pas besoin de ça pour s'en rendre compte.
Christian Proutot, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Il est 8h47, presque 47, sur RMC et BFM TV.
C'était le face-à-face. Merci Marie Chantrey. Retour sur RMC avec Nicolas Cantelou pour Face à Cantelou dans un instant. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
8h50, Face à Cantelou.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Cantelou. C'est Face à Cantelou sur RMC. Christian Proutot était l'invité du Face à Face ce matin. Il est resté avec nous. Donald Trump voulait réagir à cette interview.
Hey, salut, Béliane! Ça va pas là, Pauline? Où est Pauline? Les gens, ils savent pas, mais tu es américain, il faut le dire. Il a la nationalité américaine, je le sais. Et comme tu es un bon américain, je suis sûr que tu lui as tiré dessus à Pauline.
Là, ça commence bien cette rubrique.
T'as vu ça, Béliane? Ça fait six fois qu'on essaye de tuer le Donald. Mais le Donald, il est toujours là, immortel, dans ton cul, Jésus. Vous avez la chance, je vais pouvoir continuer à sauver le monde grâce à mon bordel que j'en mets tout partout. Et en plus, j'ai rien pour essuyer.
Concernant le tireur, vous avez parlé d'un cinglé dont on ne connaît pas les motivations.
Oui, lui, il est cinglé. Alors que moi, tout le monde le sait, je suis génie. Mais même s'il est cinglé, je l'aime bien quand même, ce gars. Je vais même pas le foutre en prison, je vais juste lui faire faire des travaux d'intérêt général. Je vais jouer au golf, je vais le prendre à Mar-a-Lago, je le prendrai comme caddie, puisqu'il aime bien faire des trous.
Oh. Sinon, vous en êtes où avec les Iraniens?
Alors, on a pris des avocats pakistanais. Oui, parce qu'ils sont moins chers. Pour négocier avec les Iraniens, la garde alternée, c'est
dur
à dire.
La garde alternée de quoi?
La garde alternée du détroit d'Hormuz. On leur a proposé de bloquer le détroit à tour de rôle. Une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Les Iraniens, ils sont pas faciles à négocier, on se comprend pas. Ils jouent pas au même jeu, les Iraniens, ils jouent aux échecs, alors que moi, j'aime pas les échecs. Je préfère jouer aux dames. Elle n'est pas là, Pauline. Elle est là, Pauline.
Merci, monsieur Trump. Merci. Christian Proutot est donc resté avec nous.
Non, ce n'est pas Christian Proutot. Tu as entendu ma voix, je suis le père Fouras. C'est juste que j'ai pas eu envie de m'emmerder à mettre ma barbe et mon costume. C'est vrai que cet attentat est une énigme, jeune aventurier. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce qui est fripé, orange, et sur lequel on a envie de tirer? Non, c'est pas mon doigt, c'est Donald Trump. Si j'avais été sur place, j'aurais dit à Donald Trump, sors, sors. Voilà, c'était mon analyse.
Merci, monsieur Proutot. Notre consultant sécurité est avec nous. Vincent Moscato souhaitait réagir.
Attends, au total, ça fait six fois quand le canard de Donald ne sait plus attaquer, c'est plus un président, c'est un ballon de baudruche à la fin du trône. Non, c'est pas la peine de me faire des caisses non plus, cette histoire. L'autre cinglé, il avait aucune chance d'arriver jusqu'à Trump, toi et moi. C'est comme si tu files un ballon de rugby à Christophe Willem, tu lui dis, vas-y, le cure-dent, vas-y. Va percer en défense du All Black. Résultat, le cinglé, il a fini allongé à poil avec des menottes dans le dos. Ça me parlait tant que les autres dans la salle aussi, les autres, les filles en talons, mini-jupe, pap, la ventre sur la moquette, avec tous les gars smoking couchés dessus pour les protéger. Le Donald, il adorait. Il était dans son univers, pas de paysage, tranquille. Quand il a vu la scène, il a dit, putain, super, encore une soirée qui part en sucette comme chez Epstein.
Merci Vincent. Et tout de suite, on retrouve Pascal Praud pour les titres de l'actualité.
Eh oui, bonjour mon cher Mathieu, tout le monde est là, Christian Proutot, Stéphane Bourneau, Bureau, Arnaud Demange, Thibaut Sectaire, les plus grands sont là, n'est-ce pas, Bélia? Mathieu, c'est vous qui remplacez donc Apolline. Et voilà. Mais encore une preuve du grand remplacement. Voilà.
Mais oui, mais non, mais pardon de dire les choses, mais vous avez beau essayer de vous faire des chignons, mais vous ne ressemblerez jamais à Apolline de Malherbe, ça ne trompe personne.
En tout cas, aujourd'hui, vous le savez, est un jour sombre avec cet attentat contre Donald Trump.
Alors oui, mais heureusement, la série ne lui a pas tiré dessus.
Mais oui, mais justement, c'est sombre. Pourquoi il l'a loupé? Pourquoi il l'a loupé? On a besoin de s'en débarrasser de Trump et rapidement. Mais je vous explique. Sur CNews, on l'a tellement soutenu. Alors qu'aujourd'hui, il fout tellement le bordel partout. Les gens le détestent. Et nous, naïvement, je dirais même connement, on l'a encensé. Du coup, maintenant, on n'arrive pas à se décoller l'étiquette de gros lèche-cul que nous avons peut-être. Que nous avons, je dis bien, peut-être. Nous avons peut-être, c'est vrai, un peu zété. Bon, bref, à cause de lui, nos audiences sont divisées par deux.
Allez, on sait parce qu'elle en sait. Allez, les titres.
Oui, ben oui, les titres. Oui. Ce week-end, nous fêtions donc les 40 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Oui, j'emploie le verbe fêter, car 1986, Christian Proto s'en souvient, c'était le bon vieux temps. La France avait encore des frontières dignes de ce nom. Mais si, la preuve, elles étaient même capables d'arrêter un nuage radioactif. Alors aujourd'hui, on sait les frontières, elles laissent passer tout et n'importe quoi. La situation est toujours confuse dans le détroit d'Ormuz, on n'y comprend plus rien. Les Américains prétendent que le détroit est ouvert, tandis que les Iraniens disent qu'il est de nouveau fermé. Pardon, mais ça change tous les jours. Les jours et horaires d'ouverture du détroit d'Ormuz sont encore plus difficiles à suivre et à comprendre que ceux de la Sécurité sociale ou de la bibliothèque municipale.
Merci Pascal. Christian Proutot, responsable de la sécurité des présidents pendant des années, était donc notre invité. Et...
Mais oui. Mais ouais, mais c'est moi que vous auriez dû inviter.
Bonjour Nadine Morano.
Ouais, salut le Béliard. En protection rapprochée des présidents. Là, Nadine, elle s'y connaît. Mon Sarko, je n'ai jamais lâché de 3 cm. Un vrai pitbull, là, Nadine.
Comment vous avez trouvé l'interview de Christian Proutot qui a fondé le GIGN?
Ouais, non, mais la protection des présidents, ça n'a jamais été évident. Un président, ça aime le contact. Ça aime serrer des louches. Voilà. Hein, donc ton dispositif, faut qu'il soit léger, sinon ça le gêne. Ben ouais, tu connais le problème. Il le sait, Christian Proutot. Là où il y a du GIGN, il n'y a pas de plaisir.
Vous étiez la seule à le protéger?
Non, j'étais pas la seule, mais j'étais la plus fiable. Voilà, ouais. La voix qui parle. Regarde, c'est les gardes du corps, ces deux derniers, Guéant et Hortefeux. Mais au final, c'est eux qui l'ont planté le couteau dans le dos, mon Nico. Hein? Comme quoi, les mauvais coups, ça peut venir des plus proches. Donc je dis à mon petit Marshall, méfie-toi de Truchot.
Merci Nicolas. Face à Cantelou, pour tout, dès demain, à 8h50 sur RMC et à tout moment, bien sûr, en podcast.